Polsécur, épisode spécial, je suis accompagné de Anglade. Est-ce que tu peux te présenter?
Bonjour, je suis Anglade Perrier et merci de me donner cette occasion, Nicolas, de passer à nouveau dans le podcast. La dernière fois, je m'étais présenté comme le président d'Issaka. Donc, ça a évolué depuis. Donc, je ne suis plus président de l'Issaka. Maintenant, je suis CEO, fondateur de TECAP, donc, qui est une firme de consultation en cybersécurité. Et puis, parallèlement, je suis aussi chargé de cours à l'université, notamment à l'Université de Sherbrooke et à Polytechnique. Et l'École Polytechnique de Montréal.
Oui. Très intéressant. Aujourd'hui, tu vas venir nous parler de cyber-résilience comme avantage compétitif. Sur toile de fond, en Europe, DORA a été ou est en train de se faire adopter ou en train de mise en place. Donc, ça amène des éléments très structurants au niveau de la, notamment de la résilience, mais au niveau de l'importance des services cyber et de la prestation de services numériques dans l'espace européen. Donc, une prise de conscience de leur côté. Nos voisins du Sud, eux aussi, sont pas en reste. Eux aussi, le Security Exchange a forcé des nouvelles règles de déclaration, de nouveaux éléments qui doivent être mis dans les rapports annuels et dans les différents éléments qui sont ça, notamment des déclarations des éléments cyber qui sont maintenant rendus obligatoires. Donc, le paysage est en train de changer. Le législateur est en train les organes normatifs sont en train de changer. Justement ça, au Canada, on n'est pas encore tout à fait là. On a timidement la loi 25 au Québec, un peu d'éléments au fédéral qui est en train de se faire, mais c'est encore un peu timide. Mais comme on est tributaire des États-Unis, notamment à cause de notre proximité, les échanges commerciaux, et que les compagnies européennes aussi sont très présentes dans le territoire canadien et nous faisons des échanges, nous sommes de façon indirecte soumis à ces éléments-là. Donc, il y a un avantage réel à s'y intéresser à ces éléments-là. Et ensuite, les effets positifs d'avoir que ces éléments-là peuvent avoir sur nos pratiques d'affaires. Ben, je vais te laisser un peu expliquer DORA et l'ESSEC parce que j'y connais moins. Fait que je vais te laisser les présenter puis ensuite on va descendre sur tous les avantages que ça peut comporter ces nouvelles pièces législatives.
Super. Donc, je vais partir de constat. Donc, si on s'inspire de l'histoire, on peut anticiper qu'est-ce que ça pourrait être l'avenir. Donc, on n'a pas une boule de cristal pour dire exactement c'est ce qui va se passer, mais on peut s'inspirer de l'histoire. Si on se rappelle, par exemple, de la RGPD, donc la loi sur la protection des renseignements personnels au début des années 2000-2010, je ne me rappelle pas très bien, l'Europe était quand même précurseur de cette tendance-là, de ce mouvement-là qu'on voit actuellement sur le marché sur la protection des renseignements personnels. Et puis, par la suite, vous allez voir d'autres pays, notamment les États-Unis ou le Canada qui embarquent, ou le Québec qui embarquent sur la protection des renseignements personnels. Maintenant, aujourd'hui, ça devient le sujet de l'heure sur la protection des renseignements personnels un peu partout. Donc, en tant que responsable de la cybersécurité, ça va être très peu probable que vous n'allez pas avoir ça dans votre agenda aujourd'hui comme élément de réflexion. Donc, si on s'inspire de ce passé-là, donc on pourrait multiplier les exemples, par exemple, où il y a une loi précurseur et puis qui va déclencher un peu la dynamique du marché. Je pense que DORA s'inscrit dans cette dynamique-là ou dans cette directive-là. DORA, c'est quoi? C'est la loi sur le renforcement de l'efficacité ou de la résilience opérationnelle. Ça cible les institutions financières, ça cible les compagnies en assurance. En tout cas, tous les acteurs qui évoluent dans l'industrie financière, ils seront touchés de près ou de loin. En fait, c'est pas encore en force, donc c'est prévu pour que ça soit en 2026, mais déjà la réflexion est là. Et qu'est-ce que ça amène, cette nouvelle loi ou cette nouvelle pièce législative? Qu'est-ce qui est prévu? C'est vraiment renforcer la résilience opérationnelle de ces institutions parce qu'ils sont tributaires justement des services TI. Cette nouvelle loi remet en lice ou met en exergue l'importance d'avoir une meilleure gestion de risque. Et ça relance encore le débat sur la gestion des risques de tiers, parce que, et vu l'importance des tiers dans l'écosystème, une meilleure façon de gérer les incidents, donc ça ramène un peu l'idée de rapporter les incidents cyber. Donc, c'est un peu ces différents éléments qui sont pas nouveaux, comme je dis, parce que comme entreprise et en tout cas, les entreprises ont déjà eu ce genre de réflexion, mais avec la loi, probablement, ça va être encore renforcé. Donc, ça, c'est un premier axe. Donc là, si on prend ça, on peut prévoir que dans l'avenir, par exemple, ce débat sur la cyber-résilience, ça va devenir clé, ça va se retrouver dans les différents agendas des responsables cyber. Deuxième élément, donc on n'est pas sans savoir avec SolarWinds, l'incident de SolarWinds, et l'ASEC, etc., etc., où l'un des éléments qui a été reproché à SolarWinds, c'est qu'ils n'ont pas été transparents avec les investisseurs pour dire c'était quoi leur profil de risque, c'était quoi leur enjeu de sécurité. Ça aussi, si on prend ça comme événement, et si on voit maintenant, par exemple, l'engagement de l'ASEC à publier justement une nouvelle pièce législative pour forcer les entreprises à déclarer les incidents cyber, là encore, on peut, c'est pas comme une boule de cristal, mais on peut anticiper et dire, OK, déjà là, les investisseurs vont être de plus en plus conscients aux enjeux, aux risques cyber que ça pourrait comporter, par exemple, sur les sphères des investissements. Et de là, les responsables des organisations, ils n'ont pas le choix, comme ils reportent, comme ils déclarent des événements sur leur profil de risque dans les états financiers, ils seront aussi dans l'obligation de le faire pour les risques cyber. Ok? Donc, ça veut dire ces deux éléments, faire en sorte que les c'est comme on n'a pas le choix. Il faut vraiment renforcer notre cyber-résilience. Donc, voilà ce qui nous amène à dire, ok, oui, il y a des pièces législatives qui nous amène à réfléchir sur la cyber-résilience, mais en quoi ça va créer de la valeur en réalité. C'est bien beau de d'être conforme, mais est-ce que juste mettre des dollars pour être conforme, c'est suffisant? Qu'est-ce que ça va nous ramener de plus?
Oui, tout à fait. Puis justement, pour ceux qui aiment bien chialer sur les Européens, qui sont toujours en train de mettre des lois, en train d'encadrer des choses comme ça, oui. Mais on l'a vu avec le RGPD notamment, puis il y a beaucoup de pression aux États-Unis pour avoir une forme de cohérence de protection des renseignements personnels comme ça. Donc, l'élément, ils n'ont pas été que des législateurs. Ils ont été en mesure de faire bouger, ce qu'on appelle le « move the needle » en anglais, c'est de réussir à faire bouger les choses parce que, de toute apparence, le milieu de des TI en général est quelque peu négligent, on va dire, qui ne s'auto-gère pas seul, même s'il clame énormément ce genre de choses-là. Et comme dans d'autres secteurs, puis j'aime beaucoup les exemples des autres secteurs, notamment l'automobile et l'aviation. On était dans des milieux non régulés, qui ont permis l'innovation, qu'on pourrait en quelque sorte, mais qu'avec le temps, ils étaient devenus de plus en plus nécessaires, un peu comme Dora et ce que la Secure Exchange est en train de faire, de venir poser des balises sérieuses parce que c'est des pièces qui deviennent plus importantes dans l'infrastructure globale et que le danger qui s'ensuit est très important. Et ça n'a pas empêché l'aviation de faire de l'innovation et ça n'a pas empêché le milieu de l'automobile de faire de l'innovation aussi. Fait que pour ceux qui sont un peu, qui poussent, ah non, mais les lois, non, c'est pas tout à fait ça. Les contraintes amènent de nouvelles innovations. Fait que vraiment, je fais la promotion de ces éléments-là parce que ça met des balises correctement. De là, ces modifications-là vont amener un contenu intéressant, puis c'est ce qu'on parlait un peu avant de commencer à enregistrer. Ça va donner quand même des éléments compétitifs, même si on force la main, même s'ils ne sont pas contents, ça ajoute énormément de valeur, un peu ce que tu mentionnais, là.
Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Premier élément, comme je dis, c'est déjà puisque le sujet est ramené au niveau des investisseurs, la SEC et tout, ça va être un message fort que vous allez envoyer aux investisseurs que oui, on a un meilleur contrôle de notre risque cyber. Ok, donc vous comprenez que dès que les investisseurs sont intéressés ou sont rassurés, on est vraiment une économie qui est basée sur la confiance des investisseurs, c'est mieux que c'est. Donc déjà, ça vous donne une longueur d'avance par rapport à vos compétiteurs. L'autre axe, c'est dans les exercices qu'on avait l'habitude de faire sur les évaluations d'impact d'affaires, les BIA, dans les fameux plans de continuité des affaires, on avait déjà cette habitude d'avoir cette réflexion. Mais déjà, avec cette loi, ça va nous forcer à refaire cet exercice. Donc, ça aussi, ça va amener un avantage intéressant. Donc, en réfléchissant sur nos opérations, là, il y a des gains d'efficacité qu'on peut aller chercher. Peut-être que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas posé la question. Peut-être qu'il y a plein d'opérations qu'on a actuellement dans notre environnement qui ne sont pas nécessaires ou qui produisent très peu de valeur. Donc, juste à faire cet exercice pour se conformer à la loi, ça va nous amener à réfléchir sur nos opérations et à aller chercher des gains d'efficacité qui pourraient créer beaucoup plus de valeur. Donc, encore, créer un avantage compétitif sur le marché par rapport aux autres qui ne sont pas obligés de se conformer parce qu'ils ne se trouvent pas dans cette industrie ou qui, par exemple, traînent les pieds à entamer cette réflexion, par exemple.
Oui, absolument. Puis l'axe aussi par rapport à ça, puis si on parle du côté législatif, c'est que, puisqu'on a vu notamment avec le RGPD, où on voit dans d'autres milieux, au CMMC aux États-Unis pour l'approvisionnement militaire, le fait de descendre, que ça descend tranquillement vers le bas, où chacun porte le premier en avant porte la responsabilité de ceux qui suivent en arrière de lui ou ses fournisseurs. Puis là, tu parlais de SolarWinds notamment, qui a amené à l'intervention de la Security Exchange justement pour modifier ses règles. Un SolarWinds va être obligé de déclarer ces éléments-là. Il va être obligé de déclarer à ses clients, il va être obligé de déclarer que ses fournisseurs lui déclarent également. Il faut avoir un peu l'effet comme RGPD où l'ensemble, ça va suivre l'ensemble de la chaîne. Donc, la valeur qui est gagnée par le premier, le principal, l'entreprise principale de l'offre de service va aussi découler et suivre sur le restant.
Effectivement. Et puis, ça va les forcer également à sortir de ce schéma de pensée pensant que la conformité, c'est juste un checkbox. En réalité, aujourd'hui, la gestion de la conformité, ça devient un élément stratégique, comme on vient de le voir. Genre, juste une pièce législative, ça change complètement l'écosystème externe. Ça change complètement. Ça pourrait même impacter vos opérations internes. Donc, déjà, dans cette réflexion, juste à penser que la conformité, c'est juste un checkbox. Je suis conforme ou pas. C'est ça aussi, je pense que ça va être une valeur ajoutée à ramener ces genres de réflexion au sein des organisations pour sortir de ce schéma de checklist, checkbox, que ce soit au point de vue de la sécurité ou de la conformité, par exemple.
Oui, absolument. Puis, de toute façon, de l'avoir eu par expérience, comme le plus grand élément de ce type-là, c'est PCI, qui était essentiellement perçu comme étant de la conformité et non de la sécurité, puis les en cyber était très fâché parce qu'il disait que PCI n'amenait pas de la sécurité. Ça haussait le niveau de l'eau. Ça fait ce genre de choses-là. Fait quand tu as une maturité faible, là, on fait juste les checklists, comme tu mentionnes. Mais quand on est en maturité élevée, bien là, c'est plus le checklist. Le checklist vient juste corroborer l'ensemble des activités qui sont exécutées ou qui sont existantes par l'entreprise. Donc, c'est plus genre je suis le minimum conforme. Mais je suis genre très sécuritaire parce que j'ai mis tant qu'à mettre de l'énergie dans les éléments de cybersécurité, ben, je vais le faire de façon cohérente par rapport à ma business. Et ensuite, ben, je veux juste m'assurer de l'alignement de ceux-ci avec les normes et non que les normes viennent m'imposer des choses.
Ouais. Donc, c'est tous ces changements que, comme je l'ai dit, je pense qu'il va vraiment créer de la valeur, qui va vraiment changer le positionnement stratégique d'une organisation en réalité. Donc là, on voit vraiment que la sécurité, c'est vraiment pas une affaire de TI avec des gars TI, administrateurs, systèmes, etc. qui font des changements. Ça prend ces genres de réflexion.
Ça augmente cette maturité-là. Puis ça, je sais que ça chatouille les opérateurs TI parce qu'ils avaient l'habitude d'être un peu plus libres dans ce qu'ils faisaient avant. Là, ils vont se faire comme les autres secteurs d'ailleurs. Là, c'est pas nouveau. C'est pas de devoir dire ce qu'on fait et comment on le fait et de l'expliquer comment on le fait justement. Puis c'est très important. Puis c'est tout le volet gouvernance qui est important d'avoir une maîtrise de ces informations. Puis comme on avait déjà en parlé dans un autre précédent podcast, sur COVID, ben c'est important, ça ajoute de la valeur, cette connaissance-là, parce qu'on est capable d'aller plus loin. Là.
Effectivement, je suis... nous qui sommes justement acteurs de l'industrie, de la cybersécurité, je dirais, et c'est tout à notre honneur. Je pense que c'est un levier intéressant pour nous, donc on aura moins à se battre pour convaincre des gens que la sécurité ou la cybersécurité, c'est quelque chose qu'il faut le faire. Donc, quand des régulateurs mettent le nez dedans et disent, regarde là, il faut le faire. Quand des investisseurs commencent à être intéressés et dire, regarde là, il faut que ça soit pris au sérieux, on franchit un autre palier. Ça va être plus de pression, mais je pense qu'on va franchir un autre palier.
Oui, oh, tout à fait. Je pense que tout le monde va gagner à cette activité-là. Je trouve ça très intéressant. Puis, de toute façon, ça fait longtemps que je plaide pour le fait que ça a un avantage parce qu'on rassure les gens. Puis, c'est ça aussi, c'est ça que tu m'as ton message aussi, c'est de dire, ben là, on va rassurer les investisseurs parce que maintenant, ils vont mettre leur argent où ils vont voir qu'on va être protégé et qu'il n'y aura pas un incident de sécurité majeur ou probable dans différents éléments. Tu parles d'un BIA. Peut-être pas tout le monde qui est familier avec ça, mais je vais te laisser un peu expliquer comment ça fonctionne et comment tu le vois dans ce contexte-là.
OK, super. Donc, comme je dis, le BIA, c'est quand on fait les exercices de continuité des affaires, c'est l'exercice qui nous amène à identifier nos processus critiques, nos processus clés, les systèmes qui supportent ces processus clés, ces processus critiques, et puis le temps de non-disponibilité de ces services qui va avoir pas ou très peu d'impact sur les opérations d'une organisation, qui pourrait même toucher à l'existence même d'une organisation. Donc, l'exercice BIA, ça amène à ça en réalité. Mais avec, justement, la loi et avec DORA, okay, on va être encore amené à faire cette réflexion. Okay? Parce que ça nous demande de renforcer notre efficacité opérationnelle. Donc, nos opérations, identifier nos opérations critiques. Parce que l'autre réalité dans la gestion de la cybersécurité dans un contexte pareil, c'est rare qu'on sera en mesure de sécuriser toutes nos activités, tous nos processus, tous nos systèmes au même niveau. Donc, si on décide de prendre cet axe, c'est certain, on va juste en train de gaspiller des ressources, etc. Okay? Maintenant, si oui, on veut être conforme, démontrer qu'on gère le risque correctement, donc, d'où l'axe sur la gestion des risques qui devient un élément clé d'Andorra. Donc, ça aussi, ça va nous amener à avoir cette réflexion quand on va réfléchir sur nos opérations, sur nos processus critiques, par exemple. L'autre élément à ne pas oublier, par exemple, dans les exercices BIA, on a toujours tendance à se concentrer sur nos opérations internes. Oui, on considérait les fournisseurs, mais aujourd'hui, c'est différent. Par exemple, si vous voyez le nombre d'entreprises qui se tournent, par exemple, vers les services cloud, les services infonuagiques. Donc, beaucoup des opérations, beaucoup des systèmes dépendent maintenant, non pas. Donc, vous êtes dans un contexte de sécurité partagée entre toi et le fournisseur. Donc, le fournisseur devient de plus en plus un joueur clé. Donc, DORA ramène cet élément. Donc, aussi, aux États-Unis, commencent à faire cette réflexion. Est-ce que, justement, par le fait que beaucoup, beaucoup d'organisations concentrent leur activité sur l'adoption du cloud, parce qu'on ne va pas se le cacher, il y en a peut-être trois grands joueurs dans ce segment de marché, ou à la rigueur quatre. Donc, ça veut dire une bonne partie de l'économie va se concentrer sur quatre grands joueurs. Donc là, on va tomber dans un contexte de risque systémique automatiquement. Okay. Donc, tout ça force les organisations à avoir cette réflexion. Donc, c'est pour ça que je pense vraiment que ce décor-là, ce changement dans le décor légal et administratif, ça va avoir un effet énorme sur la façon que c'est géré la sécurité dans les organisations.
Oui, absolument. Puis on va arrêter d'être le mal nécessaire. Là, on va être ceux qui vont être en anglais, des enablers, là, des accélérateurs qui vont permettre justement aux organisations de se démarquer par rapport aux autres. Puis, moi, je le vois plus au niveau de CMMC parce que je suis proche de cet univers-là, mais c'est les mêmes éléments où le très grand acheteur de l'armée américaine vient de descendre un ensemble de règles. Et c'était fois. J'ai eu des anecdotes un peu farfelues, mais en même temps, ça démontre à quel point c'est important d'avoir cette réflexion-là malgré tout. Disons, dans CM6, disons, ça descend vraiment aux petits fournisseurs, puis Dora va faire la même chose aussi. Et au niveau Secretion aussi, la même chose. Il y avait un fournisseur de tapis pour un sou. Et genre, il y a un ordinateur pour quelque chose, puis il n'y a rien d'autre dans son entreprise. Lui, il fait des tapis. Il y a juste des machines qu'il a achetées probablement il y a 30 ou 40 ans. Et lui, c'est ça son cœur de métier. Fait que là, c'est de voir ces gens-là un peu pris ou dépourvus, un peu déstabilisés par ça. Là, j'espère que Dora va pouvoir donner de l'accompagnement parce que CMMC, il n'y en a pas tellement d'accompagnement. Tu es laissé pas mal à toi-même puis tu dois foncer là-dedans. Puis ça descend du grand premier fournisseur avec l'armée et ensuite ça descend à tous les sous-fournisseurs. Donc, dans ce cas, c'est le fournisseur de tapis ou l'autre fournisseur de cette nature-là qui n'ont pas l'impression d'avoir de la cyber qui sont là, mais sont quand même importants parce qu'ils font partie de la chaîne, parce que les commandes sont quand même numériques, tout est numérique. Donc, de comprendre le lien que ça peut avoir, le chemin est long, Mais je pense qu'on a quand même des leviers très, très intéressants par rapport à ça, justement, nous amener à progresser comme société plus loin. Je pense qu'on a fait un bon tour sur les éléments de compétitivité relatifs à la cyber-résilience. Il y a d'autres choses que tu voudrais ajouter?
Oui. Donc, l'autre élément que je voulais mentionner, c'est, par exemple, comme on disait que nous, acteurs dans le secteur de la cybersécurité ou les acteurs de la cyber, ça va être à notre avantage parce que ça amène le débat à un autre niveau. Mais également, nous, à notre niveau, comme professionnels du secteur, on doit faire l'effort aussi pour sortir dans ce carcan de penser que la sécurité, c'est juste switch, router, firewall et VPN. Tu vois, donc c'est pour sortir de cette dynamique de penser que la sécurité, c'est juste une question de bits and bytes et de vraiment utiliser la sécurité, de vraiment voir la sécurité comme un enabler, si tu me permets de peut-être d'utiliser ton terme, un facilitateur pour l'accompagner, je pense aussi. C'est là qu'on va avoir cette cohérence. Et puis là, il faut sortir de cette réflexion pensant que ça doit être une activité isolée. On a intérêt à travailler l'un l'autre, une approche collaborative parce qu'on est tous dedans. C'est la menace nous touche tous.
Oui, absolument. Puis juste rajouter un dernier élément là-dessus, puis on va conclure après. Effectivement, on est passé d'un univers, parce que genre, moi, je suis en cyber depuis le fin des années 90, début 2000, où justement, il n'y avait que des gens de technique. On appelle maintenant, et la profession elle a beaucoup changé depuis. C'est diversifié, puis c'est justement très important de le dire que tous ces profils-là sont importants, mais on ne peut pas exiger une personne qui est technique, qui configure des switches, d'avoir cette réflexion systémique. Mais en même temps, il faut que la personne qui a des réflexions systémiques soit capable de parler à la personne qui configure des switches pour que les deux s'arriment et arrivent au point où justement la conformité dans ce cas-ci amène des gains énormes pour les organisations.
Super, tout à fait d'accord.
Ben, je te remercie beaucoup pour cet enregistrement. C'est très plaisant d'aborder ces discussions-là d'un peu plus gouvernance parce qu'on n'en a pas assez, justement. Soit on est tout un ou tout l'autre, puis d'amener justement ces éléments-là, ces avantages, et que du point de vue affaires, on puisse commencer justement à sensibiliser et amener les gens ailleurs.
Merci. Ça fait plaisir. J'espère qu'on va se voir et à la prochaine.